Et c'est parti pour le show.
Et bonjour les mycosos, on est content d'être avec vous, avec Je vous demande de les applaudir. Oui, encore plus fort, il y a une ambiance incroyable ce soir. Et là, elle slalom comme personne, elle se rapproche du but à une vitesse folle. Et encore, vous n'avez jamais vu jouer au badminton, Claire.
C'est grave.
Claire Pégrin, mesdames et messieurs, dans Mycos The Night. Lui, il a déjà 11 buts à son actif cette saison. Il est à une passe décisive de son record personnel. On s'arrache son maillot un peu partout dans le monde. C'est Jean.
Jacques.
Mesdames et messieurs, les Mycosos, c'est une émission sur le sport.
Ok, donc ça, c'est Élodie Font, mais Élodie qui a visiblement oublié qu'on était sur Arte Radio. Tu sais, on peut parler de sport, mais façon Arte Radio. Courir. Marcher. Suer. Se dépenser.
Est-ce que le vélo elliptique est un chemin vers l'orgasme?
Addiction. C'est une drogue positive. Corps musclé. Muscles bandés. Un match de tennis, c'est le premier étage du Louvre de mes fantasmes.
Génération attentat à la pudeur.
Endoctrinement des masses par endorphine télévisée. J'ai suivi le trajet de la goutte de sueur. Maillot jaune ou maillot brésilien? 2-0. Courir. Courir encore.
Interview d'un activiste du canoë kayak à Fleury-Mérogis.
Féminisme libérateur de la brassière ou injonction de la guerre des tétons? Interview d'un... Encore. Courir. 30A. Aïe, un muscle se déchire. Pensez au Louvre. Positif. Ok, t'as rien écouté en fait. Bon. Hello.
Bon, ok, alors d'accord, je reprends une voix normale puisque visiblement mon talent de commentatrice sportive, je sais jamais trop comment le dire.
Commentatrice sportive, allez.
On dit rien, c'est mieux.
Bref, en tout cas que mon talent n'est pas le bienvenu ici, que je suis dans une équipe de sectaires, attaquons-nous tout de suite à un vrai problème de société puisqu'on a pris le pli de débuter Mycos The Night par un point... Je ne connais pas mon corps et vous. Pourquoi donc le sport? Il paraît que ça nous fait du bien. En gros, quand on fait plus de 30 minutes de sport, ou d'ailleurs quand on est exposé à une situation de stress physique ou psychologique, notre cerveau déclenche des endorphines. À ne pas confondre avec la morphine tout court, des hormones dites du bonheur qui te plongent dans un état de bien-être, de kiff. Ça te rappelle pas quelque chose?
C'est une drogue positive.
Moi non, parce que j'ai jamais essayé, mais l'effet des endorphines est comparable avec l'effet d'une drogue. Comme quoi, le sport serait peut-être bel et bien l'opium du peuple. Encore plus depuis que je sais que dans les endorphines, il y a de l'opioïde, on est donc sur de l'anxiolytique naturel. C'est pour ça qu'on va avoir tendance à dire à quelqu'un de nerveux ou juste d'un peu stressé d'aller faire du sport.
Il faut dire que Élodie me regarde de façon très très appuyée en disant ça, je crois Car que nous... je suis la personne un peu stressée.
Car nous sommes deux dans ce studio, Claire. Voilà. Enfin, trois avec Jean-Jacques, bien sûr.
Qui est de loin le plus sportif de vous deux bandes de limaces.
Accessoirement, faites aussi du sport si vous avez mangé un hamburger ce midi, tape dans tes mains. Si vous voulez vous donner du courage, si vous avez une bonne résolution à tenir, surtout si ça fait 5 ans que vous avez la même. Si vous avez mal aux cheveux, si vous avez des lunettes trop rondes parce que, mesdames et messieurs les mycosos, nous sommes dans une ère où il faut...
De l'eau !
Non, pas ça, il faut... Courir, faire du yoga, aimer le badminton, manger, bouger, encore courir, se muscler, 5 fruits et légumes par jour, toujours courir même si vous habitez dans un endroit pollué et que ça vous explose les poumons. Faire du sport, ça ne vous aura pas échappé, participe à l'hygiénisation de nos sociétés occidentales, manger moins de viande, moins fumer, moins boire et toujours, toujours faire du sport parce qu'on est fort, parce qu'on est beau, parce qu'on est musclé.
Muscle ton jeu, Robert.
Enfin, surtout les hommes, hein, musclés. Non, surtout les hommes, parce que manquerait plus qu'une femme soit un peu trop forte en muscles. Non, là, c'est moche, on dirait une lesbienne.
Ah, dégueu.
Et pour info, le sport tel qu'on le vit, c'est-à-dire comme un moyen de maîtriser son corps et de se discipliner, existe depuis la moitié du 19e siècle et il est né en Grande-Bretagne, dans les grandes écoles, à l'origine à des fins éducatives.
D'accord. Tu nous raconteras, parce que de mon côté, j'écoute tout ce qui parle de sport en faisant mais n'étant pas ultra fan de pratiques sportives moi-même, je préfère quand c'est plutôt l'occasion qu'il se passe des trucs improbables. Par exemple, dans les trucs sportifs qui ont marqué l'imaginaire collectif d'une époque, le 19 janvier 1919, bah dis-toi bien qu'un avion s'est posé dans un endroit incongru à l'aide d'une manœuvre impressionnante sur le toit des Galeries Lafayette. Il y a quand même une terrasse de 28 mètres sur 12, autant dire chaud les haricots.
Super, mais il dit qu'il voit pas le rapport avec la choucroute.
C'était un défi en fait lancé par le grand magasin qui promettait 25 000 francs au pilote qui y arriverait. De la pub, en fait, du coup, mais bien pensée, parce qu'il faut dire qu'à l'époque, l'aviation en est au balbutiement et que les pilotes se la jouent acrobate du ciel, à qui sera le plus YOLO, en mode acrobatie, tout ça au lieu de créer des startups comme tout le monde. C'est l'invention de ce qu'on appelle l'aviation sportive et qui relève même du sport extrême.
Ah, tout s'explique.
D'ailleurs, bon, cet aviateur, Jules Védrine, qui avait réussi l'exploit des Galeries Lafayette, meurt 2 mois plus tard en avion. C'est con !
C'est con, j'avoue.
Enfin, il meurt en avion, ça c'est la version officielle, car à mon avis, le mec a vu un catalogue des Galeries Lafayette et quand il est tombé sur le prix d'un slip, il est décédé. Mais bon.
Oui, mais un slip en soi de biche.
Ok, chacun ses pratiques sexuelles.
Sinon, sur le Tour de France de 1950, il y a un coureur français, Abdelkader Zaaf, qui était en fait algérien, mais l'Algérie était française, donc blim blam blum. Il s'est retrouvé à pédaler à contresens. Hop, zou, demi-tour total. Alors, pourquoi ? Eh ben, il faisait une canicule épuisante cet été-là, et la légende raconte que le mec, assoiffé après une échappée, aurait attrapé un bidon tendu par un spectateur, bu une immense rasade pour se désaltérer d'un coup, sauf qu'en fait, c'était du pinard, et qu'il s'en était pas rendu compte, et donc, bourré comme un coin, notre Abdelkader serait reparti dans le mauvais sens. On dirait vraiment les excuses de merde comme ça. Genre, oh mais oui, mais je rentre bourré à 4h du matin, mais c'est parce que je croyais que je buvais de l'eau, mais en fait c'était du gin. Non.
Tu prends vraiment cette voix quand tu rentres chez toi le...
À 4h du matin, ouais, ça n'existe pas. L'alcool étant à consommer avec une extrême modération. D'ailleurs, il semblerait que ce ne soit pas ça la version exacte de l'histoire et qu'en fait, fatigue plus chaleur plus grosse époque de la prise d'en fait sans complexe égale méga coup de barre pour le coureur qui fait un malaise au bord de la route. Or, pour le faire revenir à lui, les gens qui se trouvent là l'aspergent avec ce qu'ils ont sous la main, c'est-à-dire du pinard. Du coup, Zaaf reprend ses esprits, enfourche son vélo et part dans le mauvais sens groggy jusqu'à se retrouver face à la voiture balai, mais puant la vinasse à cause de l'aspergeade suscitée. D'où la légende.
En plus, merci, ça a dû complètement bousiller ses fringues, cette histoire de vin rouge.
Pourquoi les femmes choisissent-elles le chat compact ?
D'abord pour l'environnement. Et puis, avec l'arrivée de Claire, j'ai besoin d'une propreté irréprochable. Regardez cette saleté. Tous les jours, c'est comme ça.
Heureusement que t'es là, Elodie, pour te soucier des vrais problèmes.
Eh oui.
Mais du coup, je te laisse imaginer pourquoi le maillot jaune s'appelle comme ça.
Non, merci, non, non.
Bah, désolé, c'était mon point Jean-Marie Bigard.
Comme dit la dame, quand Claire arrive, c'est toujours un peu sale.
Alors, il y a aussi cette très belle histoire, celle de Alexandre Villaplane, footballeur français, grosse star, titularisé 25 fois en équipe de France, qui participe à la Coupe du Monde 1930 en tant que capitaine, mais qui ensuite réalisera que oh, taper dans un ballon, c'est sympa, mais massacrer des Juifs, c'est vachement mieux. Le mec rejoint vite un petit club sympa qui deviendra rien de moins que la Gestapo française et finira même par obtenir le rang de SS, un transfert inoubliable. Il faut dire que l'album Panini des années 30, toujours un délice.
Des histoires un peu glauques avec des sportifs, disons, plus actuels, il y en a quelques-unes aussi. Hein. Pas glauques type point Godwin, plutôt en mode femme qui meurt. Il y a eu la meuf de l'athlète Oscar Pistorius en Afrique du Sud. Il y a le joueur de rugby Marc Cessillon qui a tué sa femme, qui a été incarcéré en 2004. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette histoire.
Bah, globalement, je me dis que ça n'a pas tant à voir avec le sport, mais plus à voir avec le fait que beaucoup de femmes sont tuées par des hommes.
Effectivement. Et dans un autre genre, tu as aussi l'ancien footballeur Tony Vérel, qui s'est retrouvé au milieu d'une rixe, sorti de boîte de nuit, où ses deux frères tirent sur les videurs qui tirent sur les frères. C'est très très flou. Et d'ailleurs, le procès n'a pas encore eu lieu 6 ans après. Et puis là, on parle de sportifs plus ou moins connus, plutôt connus là. Mais le sport est aussi lié à des scènes de violence, et notamment l'angoisse qu'il peut y avoir à aller faire son jogging dans un bois moyennement éclairé, à s'entendre siffler, injurier, insulter. Ceci dit, en réalité, le nombre de meurtres sur des femmes qui courent est évidemment déjà trop important, ça c'est évident, mais tout de même assez infime. Je parle bien du nombre, hein, qui est infime, pas de la peine. Depuis 2010, j'ai cherché, je crois qu'il y en a eu 6.
Effectivement, on a beaucoup entendu parler des histoires qui étaient médiatisées comme des histoires de joggeuses agressées ou tuées. En général, ça n'était pas lié au sport du tout, rappelons-le. En termes de violence, les femmes sont plus en danger chez elles que dehors. Les 3/4 des femmes victimes de violences connaissent leur agresseur. Pour 31% d'entre elles, c'est leur conjoint ou leur ex-conjoint.
Et quelque part, puisqu'on est dans la poker face du sport, je voudrais faire un petit topo qui aurait pour nom le sport au symbole de la virilité. Figurez-vous que j'ai une théorie que l'on pourrait qualifier d'assez scientifique, voire un théorème que nous appellerons le théorème du barbecue. Fermez les yeux Claire, je te vois.
Ok, je ferme les yeux. Ouais.
Visualisez un barbecue, la forme que vous voulez. Il faut faire un feu, le plus souvent avec du charbon de bois, mais enfin, comme vous le sentez. Et puis, on va faire cuire de la viande ou du poisson, comme vous voulez. Jusque-là, tout vous semble normal. Mais avez-vous remarqué ce schisme dans une soirée qui s'effectue presque naturellement? Les filles qui coupent des légumes dans la cuisine préparent le gratin dauphinois pendant que les mecs s'occupent du barbecue et de cuire la viande parce que c'est un truc d'homme. Le feu, ça brûle quand même.
Moi, je sens rien perso.
Et puis la cuisson de la viande, autant le reste de l'année sur une plaque vitrocéramique, la femme s'en sort, autant là. Clairement, c'est trop technique. Bien évidemment, elles sont généralement 6 à faire du feu et boivent des bières en même temps parce que la fumée, ça assèche. Et si par malheur, ce qui est mon cas, vous êtes une femme et vous aimez beaucoup vous occuper du barbecue. Surtout que vous avez une méthode révolutionnaire chilienne qui permet d'avoir des braises incroyables, alors là... Là, mes amis mycosos, ça se complique. Parce que là, vous avez tout le groupe de mecs qui se sent atteint dans sa virilité. La dernière fois que ça m'est arrivé, ils étaient tellement vexés qu'ensuite je n'ai pas eu le droit de m'occuper de cuire la viande. Quel est le rapport avec le sport?
Eh bien, c'est que t'es chelou si t'aimes pas la salade de quinoa.
Eh bien, le rapport avec le sport, c'est à peu près tout. Comment ça, vous êtes une fille et vous connaissez toutes les équipes de Ligue 1? Comment ça, vous regardez le Canal Football Club? Il y a comme pour le barbecue un drôle de mélange dans le regard de la majorité des hommes. Un mix entre le fait d'être quand même un peu impressionné et de l'autre, un peu dégoûté, finalement. Mais que voulez-vous, non, ni le vagin, ni le pénis ne sont liés à la possession du décodeur Canal+. Et qu'il s'avère que oui, au passage, tant qu'on y est, une fille peut faire du sport de haut niveau.
J'ai jamais entendu parler de ça. Encore un complot féministe.
Allume ta télé, Jean-Jacques. Tu tournes de plus en plus réac. Hein. Par contre, l'argent que l'on gagne en faisant professionnellement du sport, ça visiblement, c'est dans les gènes. Ça se décide en fonction de votre sexe. Surtout dans le foot et le rugby, hein, ça n'étonnera personne. Dans le foot, on estime que la moyenne des salaires de Ligue 1 est de 50 000 euros par mois et de 3 000 euros pour les filles qui évoluent au même niveau. En rugby, c'est 17 000 euros moyens par mois pour les mecs et rien pour les femmes, qui ont tout un autre boulot à côté,
ah ouais.
Rien du tout. Hein. Elles ne sont pas professionnelles. Pour info, depuis peu, parce que ça avance quand même dans certains sports, les gagnants de Roland-Garros en tennis gagnent, eux, la même somme, qu'ils soient du côté masculin ou du côté féminin. C'est 2 millions d'euros pour les deux vainqueurs.
Ah oui, quand même. Bon, c'est comme présenter une émission de radio, quoi.
À peu près, ouais.
Pareil.
On est grosso modo sur la même chose.
C'est marrant quand même qu'il y ait autant de pognon dans le foot, mais que ça garde quand même une image de sport populaire. Mmh. Enfin, on va pas se mentir, il y a quand même dans notre imaginaire collectif, que ce soit vrai ou faux, des sports de pauvres, comme le foot, le basket, peut-être la boxe, et des sports de riches, comme le tennis ou l'équitation. Il faut dire que c'est basé sur un vrai truc. L'équipement pour le foot, ça coûte quand même beaucoup moins cher qu'un cheval, par exemple.
Oui. Oui, j'ai vérifié, oui.
Le vélo, ça pourrait presque être un sport de gauche avec l'immense popularité du Tour de France, mais sans compter le budget dopage. Et puisqu'on parle de ça, parlons du seul dopage que je connaisse.
La dépression.
L'alcool.
J'y étais presque. 5 fruits et légumes par jour.
Sortez couverts.
Mangez des pommes.
Quand l'appétit va, tout va, hein.
Qui a du caca collé au cucu.
Alors, vous vouliez peut-être dire à consommer avec modération.
Je me trompe toujours.
Rassurez-vous, pas de promotion de l'alcool du tout. D'ailleurs, selon l'Organisation Nationale Antidopage, l'alcool a des effets plutôt négatifs sur la performance sportive. Les cas de dopage à l'alcool sont extrêmement rares aujourd'hui. Depuis 2018, l'alcool n'est même plus considéré comme un produit dopant, alors que c'était encore le cas pour l'automobile, l'aéronautique, la motonautique et le tir à l'arc. La motonautique est un mot qui existe, Elodie. Voilà,
d'accord.
Tu seras moins bête. Le tir à l'arc, c'est parce que, a priori, ça aide à ne pas trembler.
De picoler?
Bah ouais, je n'ai pas tout compris.
J'ai pas le même genre de rapport à l'alcool, peut-être.
Ou au tir à l'arc.
Ah.
Pourtant, il y a quand même des légendes autour du sport et de l'alcool, notamment celle de Suzanne Lenglen. Au tournoi de Wimbledon en 1919, encore l'année 1919, Suzanne Lenglen se retrouve en difficulté et là, son père lui lance un flacon de cognac, elle en boit une gorgée et vroom! Elle part sur un miracle, elle remporte le match alors que c'était complètement perdu. Du coup, le cognac deviendra son remontant habituel des matchs.
Passe de courvoisier et bébé.
C'est une histoire qui n'est pas si anecdotique que ça, parce que Suzanne Lenglen n'est pas qu'un nom de cours de tennis où le tout Boulogne va travailler son cancer de la peau aux premières orées d'un printemps parisien capricieux. C'est une femme qui est devenue une vraie légende. D'une part parce qu'elle a remporté un nombre de tournois très impressionnant, mais aussi parce que ce faisant, elle a contribué à libérer les femmes des carcans dans lesquels elles étaient enfermées, notamment dans leur tenue physique.
Véritable star, adulée, femme fatale des cours, elle lance la mode Lenglen. Bandeau de soie dans les cheveux, décolleté profond, Jean Patou l'habille. Elle est la première à montrer ses jambes, ses bras nus et à ne plus porter de corset.
Et ça, dans la France du début du siècle, c'est pas rien. Les décideurs politiques étant dans un grand délire de protéger les femmes pour qu'elles puissent procréer. Faut dire, elle a aussi une activité physique importante. Et ça aussi, ça va à l'encontre des discours moralisateurs qui pensent que la surmusculation nuirait à la reproduction. Bref, Suzanne s'en fout, elle leur met bien dans la gueule. Et je vais pas te mentir, Hello, ça me réconcilie un peu avec Roland Garros, qui est pour moi plus ou moins l'axe du mal quand même.
Tu sais que moi, j'ai déjà eu deux fois des contrôles antidopage. C'était dans mon ex-grande carrière de pongiste, assez mauvaise. Mais comme il n'y avait absolument aucune femme qui faisait du ping-pong en club, puisque c'est un sport où il y a beaucoup plus d'hommes, je jouais au niveau régional tous les week-ends, je m'entraînais trois fois par semaine. À l'époque, j'avais écrit cette phrase tellement perchée dans mon journal. J'avais écrit que le pire truc sur Terre qui pouvait m'arriver, c'était d'avoir une entorse.
Ah bah oui.
Et de ne plus pouvoir faire du sport. Le pire truc ! Ce qui dénote déjà un certain sens de la mesure chez moi.
Ah bah oui, ça me paraît tout à fait cohérent. Du coup, on fait un ping-pong ?
On dit tennis de table, merci.
Bon, ceci dit, c'est vrai que quand je fais ou quand je faisais du sport, j'étais assez éloignée de toute mesure. Avec ce groupe de filles, on partait le dimanche matin en voiture, il y avait 2-3 heures de route généralement. On mangeait au flunch, on jouait et on repartait. Et si tu veux, on était tellement dans une envie de gagner que très régulièrement, on pleurait à gros sanglots, on hurlait, on avait des fous rires, tout était disproportionné. Et c'est l'état dans lequel te met la compétition que personnellement, je n'ai retrouvé nulle part ailleurs. Je ne sais pas si tu faisais de la compète, mais...
Non.
Étonnant.
Bon, bah, je ne peux pas échanger avec toi sur cette question. Mais c'est un sentiment assez violent de puissance, de vouloir éliminer l'autre, d'ajouter une médaille à ta collection. C'est vrai, c'est très bizarre.
Un bon délire.
Ah bah, la compétition, ce n'est pas hyper sympa. C'est un peu Game of Thrones tous les dimanches. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ?
Toujours pas, non.
Si, un peu l'esprit que certaines entreprises cherchent à développer.
Bien
toi qui es très macroniste dans l'âme. Il y a des neurobiologistes de l'INSERM qui expliquent que lorsqu'il y a concurrence, et donc une potentielle utilité personnelle, le cerveau envoie des grandes rasades de motivation. C'est pour ça, évidemment, que beaucoup d'entreprises ne se gênent pas pour en profiter. Et ce qui est dommage, moi j'aimais cette sensation, hein, donc je m'en suis pas plainte, mais ce qui est dommage, c'est que cela freine de nombreux enfants qui ont juste envie de faire un sport pour le plaisir. Et dans les clubs, souvent, on va te pousser à la compète. Et si tu la refuses, c'est soit que t'es nul, soit que t'es flippé, soit qu'en gros, t'as qu'à changer de sport. Surtout quand t'as l'âge fatidique d'être au collège. D'ailleurs, j'ai lu plusieurs études qui montrent que les enfants se développent beaucoup mieux et dans un moindre stress avec l'apprentissage coopératif, par petits groupes, et en zappant justement cette idée de compétition qui, certes, peut éventuellement te transporter, mais peut aussi te faire énormément souffrir. Accessoirement, parce que je vois que cela taraude Jean-Jacques depuis tout à l'heure.
C'est vrai, je boue de l'intérieur.
Mon contrôle antidopage, c'était de boire 1,5 litre d'eau et que mon urine soit testée. Et il n'y avait rien dedans, hein, même pas de l'alcool. Mais j'ai un copain qui, lui, au même âge, vers 15 ans, faisait des compètes de vélo. Et lui me racontait qu'il y avait déjà du dopage à 15 ans. Que si tu ne prenais pas de produits excitants, tu te faisais forcément dépasser par ceux qui en prenaient. Donc ce n'est pas qu'un mythe.
Attends, viens. En parlant d'avoir 15 ans, je t'emmène quelque part. Alors, chers décédés, bonjour, bienvenue en enfer. Alors si vous êtes ici, eh bien, c'est parce que vous avez commis de grosses boulettes dans votre vie. Et qui dit boulette, dit punition, hein, le karma, rappelez-vous, tout ça. Eh bien, vous avez peut-être entendu parler d'un enfer où on crame, hein, on flambe les gens. Sachez que pas du tout, hein, bien sûr. Donc moi, c'est Jean-Rémy et je serai votre maître nageur, hein, puisque vous l'aurez compris, l'enfer se situe en réalité au centre aquatique du collège-lycée Jean Renoir de Jouer-les-Tours. Alors, quelques règles bien sûr. Sur votre gauche, les cabines communes, hein, dans lesquelles vous vous changerez sous le regard douloureux de vos camarades. Oui, parce qu'ici, vous avez tous 13 ans et demi, hein, quel que soit l'âge de votre décès, on vous a tous remis sur la pire période de votre vie. Donc, changement, nudité, maillot de bain, bien sûr, afin de générer tout ce qui est complexe, hein, par rapport au corps des autres. Donc, on n'hésitera pas à lancer un regard moqueur sur le contenu du slip de bain de son camarade. Sachez qu'une liste de surnoms pour vos collègues en surpoids se tient à votre disposition à l'accueil. Bien évidemment, les filles, tout ce qui est problème de règles, on fera régner un tabou sur le sujet, hein, parce que Quitte à vous fader ça pendant 40 piges, autant en faire un gros secret dégueulasse. Donc ici, voilà, hein, on sera sur tout ce qui est compter les poils des uns des autres, comparer les tailles de poitrine, et puis on n'oublie pas le bonnet de bain obligatoire qui arrache les cheveux parce que on ne perd pas l'objectif de passer un moment traumatisant. Et puis, suivez-moi, je vais vous montrer le petit pédiluve à verrues pendant que vous complexez sur vos chairs de poule. N'hésitez pas à avoir peur d'une petite érection impromptue et notez bien que toutes les explications à partir de maintenant seront noyées dans l'écho de la piscine. Ah, donc si vous n'entendez rien quand je gueule pendant que vous vous bousillez les yeux sous l'eau pour 8 jours, c'est normal. Alors sur ce, on enfile les brassards à sec et on est parti.
Ça sent le vécu. J'y croyais tellement que je commençais à rouiller.
On enfile les brassards à sec.
Tu te rappelles cette sensation du brassard alors que t'as pas encore les bras mouillés?
En fait, j'avais complètement oublié et je viens de m'en souvenir.
J'ai quand même trouvé quelqu'un pour qui c'est un bon souvenir.
Ah ouais?
Et je pense que c'est une personne qui va finir dans un musée parce que je comprends pas.
Oh, t'avais presque envie d'avoir tes règles pour y échapper, je me rappelle. Et en même temps, t'avais pas envie non plus parce que du coup, sinon tout le monde allait te regarder en te disant « Ah, elle a ses règles ». Et du
moi,
coup, c'était un peu gênant.
J'aurais tué pour ce petit mot indisposé dans ton carnet qui te dispensait du grand moment de l'angoisse. Et en même temps, comme tu dis, oui, c'est fou qu'on n'ait pas inventé un truc qui ne consiste pas à annoncer à la terre entière du collège ce qui coule de ton vagin. Horrible.
Ouais, c'est horrible. Quand j'y pense, a posteriori, on garde quand même pas mal de moments assez traumatisants du sport à l'école. Mm-hmm. Tu sais, il y avait aussi le moment où les équipes étaient faites et que tu étais choisie dans un ordre assez précis qui consistait à être du meilleur au moins bon dans le sport en question. Et clairement, c'était assez humiliant quand même d'être dans les cinq derniers ou dans les cinq dernières. Souvent les cinq dernières d'ailleurs.
Oui, moi la dernière d'ailleurs. Je l'ai dit, ça m'angoissait d'être choisie. Mais aussi, une fois, j'ai dû moi choisir mon équipe. Bah, j'aimais pas du tout cette responsabilité.
Ah ouais, non plus ?
Oh.
Ah, moi, j'aimais bien.
Oh.
Mais là, on retrouve mon esprit de compète. Et souvent, je voudrais pas faire de généralité, hein, parce que c'est mal, les généralités. Mais il y avait quand même beaucoup des premiers de la classe qui n'étaient pas très bons en sport. Suivez mon regard. D'où ce pavé dans la mare. Pourquoi les intellos sont nuls en sport ? Et pour m'amuser, j'ai tapé cette question dans Google. Très bonne idée.
Ah, oh, toujours.
Et je suis tombée sur un article. Pardon, c'est une parenthèse, mais l'article, c'est « Amoureuse d'un intello ». Pas de panique.
Je sens qu'on est encore sur un grand journalisme d'investigation.
Et il y a notamment ce passage magique. Attention, t'es prête ?
Balance.
Si tu es prise d'une envie irrépressible de passer un petit moment hot avec lui alors que vous n'aviez rien prévu, attends-toi à ce qu'il décline l'invitation avec une phrase du genre « Ah non, ce soir je peux pas, j'avais prévu de lire quelques pages de critique de la raison pure de Kant. » Au début ça calme, mais on s'y fait.
Oh là là, j'ai envie de brûler cette phrase. Je sais pas comment faire logistiquement, mais rien ne va.
Rien ne va dans cette phrase.
J'aime assez ce style, moi.
Pour revenir au sport, t'avais les chasubles aussi. Tu te rappelles les chasubles ?
Oh, le truc qui schlingue.
Ouais, qui puait la transpi de tous ceux qui l'avaient porté avant toi. Parce que il y a ça aussi dans le sport, quand même. L'odeur. L'odeur de la transpi. La transpiration.
L'odeur de la transpi. Je sais pas, je me dis que ça pourrait faire un tube ou pas.
Ou un jingle ? Une autre fois peut-être. La transpiration, c'est donc le thermostat de notre corps, hein, qui le maintient toujours à 37 degrés. C'est notre cerveau qui envoie l'alerte à nos glandes sudoripares. Nos glandes sudoripares sont situées sous notre peau, en mode « il fait trop chaud, faites quelque chose, tout de suite, maintenant ». Et comme les glandes sont obéissantes, elles envoient des jets d'eau à la surface de la peau, c'est de l'eau salée. Et comme on l'aura tous remarqué, ces glandes sont très 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 nombreuses au niveau des aisselles, des mains et des pieds. Et c'est pas cette eau-là qui pue, en l'occurrence, et qui abîme les chasubles. Non, c'est ce qu'elle contient. Puisqu'en plus des sels minéraux, il y a des déchets, et les bactéries qui vivent sur nous, et elles sont assez nombreuses, les engloutissent et les rotent, les pètent, et c'est ça qui donne cette odeur âcre à la transpi. Voilà.
Bah merci pour le point rototo, Jamy. D'ailleurs, on parle des chasubles, mais moi j'ai fait de la boxe aussi au collège-lycée, et donc là aussi, tu récupères les gants de boxe des gens avant toi.
T'aurais dû faire du ping-pong.
Mycose. The night. Mycose. Mycose the night.
Sans transition.
Grande époque des Jeux Olympiques d'hiver cette année, qui se passe en Corée du Sud et... Qui dit Jeux Olympiques dit Jeux Paralympiques. Et les Jeux Paralympiques, on se demande toujours un peu comment ça marche.
Ah, comment ça marche. Lol.
J'avoue que comment ça marche, c'est pas non plus hyper bon goût, quoi.
Alors, je crois que ce qui est pas de très bon goût, c'est d'en avoir tellement rien à carrer des handicaps qu'on recule sans arrêt l'obligation de rendre des bâtiments accessibles, par exemple. Mais bon. Donc, comment ça marche? En fait, ça dépend de chaque sport. Il y en a qui ont les mêmes règles que la version valide. Le cécifoot, par exemple, c'est à peu près les mêmes règles qu'au foot, sur un terrain plus petit, encadré par des barrières et avec des clochettes dans le ballon. Alors moi, j'aime bien l'idée parce que d'habitude, je pense ballon, je pense foot, je pense pognon, cocaïne, prostitution, comme tout le monde. Et là, je pense clochette et je pense petite fée. C'est beau.
Si ça se trouve, Zaya, c'est la fée clochette.
En cyclisme, il y a notamment des vélos adaptés, comme le handbike, qui se pédale avec les mains. Hyper impressionnant à voir. Le tricycle, pour les sportifs qui ont une paralysie cérébrale qui fait que tu perds l'équilibre. Ou le tandem, où il y a une personne aveugle derrière et un guide devant.
À gauche, à droite.
C'est vrai que c'est quand même un peu compliqué à comprendre, on va pas se mentir. C'est vrai, quand tu regardes les Jeux Paralympiques, tu comprends pas exactement pourquoi les sportifs se retrouvent dans la même catégorie souvent.
Oui, c'est pas évident à comprendre, cela dit, moi je comprends pas non plus les règles, des trucs bizarres avec le balai là, sur glace.
Le ménage islandais.
Curling. Okay.
Le curling. Sinon, pour le tir à l'arc, alors là, impressionnant le tir à l'arc, parce qu'il y a plusieurs options, selon que les sportifs aient un problème de bras ou de jambes. Il y a certains trucs où tu peux tirer avec la bouche, par exemple, ou avec les pieds. C'est un truc de ouf quand tu le vois. Et donc c'est un sport où tu peux littéralement prendre ton pied.
On vient de passer le point Godwin de la blague.
Mais comme tu le disais, en effet, comment faire pour faire concourir des gens alors qu'il n'y a quasiment pas de handicap exactement pareil? Donc en fait, ce qu'explique le comité paralympique et sportif français, c'est qu'on fait comme pour les sportifs valides finalement sur le ring, le tatami ou le bassin d'aviron. Un poids léger ne fait pas face à un poids lourd. Pour concourir sur un pied d'égalité...
Ah bah oui, ils peuvent pas sur deux.
Les athlètes sont classés en diverses catégories et classes. Une classification effectuée par un personnel médical et technique spécialisé qui est en fait chargé d'évaluer l'impact du handicap sur la pratique d'un sport donné. C'est-à-dire qu'on pourra ne pas avoir le même niveau de handicap pour du ski de fond que pour du slalom, par exemple. Imaginons, moi, genre je suis une quiche absolue en cuisine, par exemple. Bon, bah disons que ça me mettrait un handicap de 32 sur l'épreuve « Recevoir tes beaux-parents », mais seulement un handicap de 0,5 sur l'épreuve « Connaître toutes les paroles de Starmania par cœur ».
Sauf si tu fais une quiche, du coup. Voilà. J'avais envie d'assumer cette blague, et puis okay, comme t'as pas réagi, t'as conscience par contre que ça, tout ça, là, « Recevoir tes beaux-parents », c'est pas une vraie épreuve olympique.
Et c'est dommage, une fois encore. Surtout pour Starmania.
Médaille d'or du rallage clair.
Ouais, championne du monde.
Tu sais qu'à chaque fois que j'entends ce son, je repense à Chirac qui comprend pas et qui lève le pouce pour le 1, mais qui lève pas les autres doigts pour le 2 et le 3-0. Donc qui garde à chaque fois le pouce, tu sais, et 1, et 2, et 3-0, ah, avec le pouce levé à chaque fois. Et à chaque fois, ça me fait mais rire. Bon, il m'en faut peu, d'accord, mais vraiment, j'aime beaucoup ce passage.
Donc il y a des gens qui réécoutent ce son.
Ah, France 98, 20 ans cette année. Qu'est-ce que tu faisais, toi, là, ce jour-là, le 12 juillet 98?
Honnêtement, je me rappelle que c'était les vacances scolaires, donc du coup, il y a de fortes chances qu'on ait regardé un Colombo ce soir-là, mais pas le match, les parents Télérama, désolé.
Bon, visiblement, Johnny, il faisait pareil que toi, on sait pas trop ce qu'il faisait ce soir-là, ou alors il avait une mémoire un peu limite.
Vous les connaissez, ces joueurs de football?
J'en connais quelques-uns, bon, bien sûr, je connais Zazie, bon,
Désolé, j'ai pas retrouvé le son sans les rires. Moi, je l'ai revu plusieurs fois la finale de 98. Enfin, j'ai surtout plusieurs fois revu le documentaire Les yeux dans les bleus.
Muscle ton jeu, Robert.
Oui, tu l'as déjà dit. Et à chaque fois, je suis assez émue, pour tout vous dire. Pour moi, France 98, c'est le poster de Trezeguet au-dessus de mon lit, juste à côté des Spice Girls. C'est Lizarazu aussi, à côté de DiCaprio. C'est ce documentaire qui me fout des frissons, vraiment. C'est ma passion pour le foot, figurez-vous.
Mais est-ce que du coup, t'as préféré des Spice Girls, c'était la sportive?
Non.
On en aura appris des choses aujourd'hui.
Ce qui me fascine, c'est à quel point, au-delà de mes propres larmes et de la déco de ma chambre d'ado qui, comme je le vois, te fascine, c'est à quel point le sport libère facilement le chauvinisme et le racisme, à commencer par les commentateurs eux-mêmes, d'ailleurs.
Il a été blessé hein, au départ. Hein,
il torde.
Lee est là, alors il y a deux lits. Hein.
Oui, c'est un grand appartement. Il me semble que c'est le 5 qui serait sorti, non? Il n'y a rien qui ressemble plus à un Coréen qu'un autre Coréen.
Est-ce que vous ne croyez pas, Jean-Michel, honnêtement, que dans un monde grand comme il est, il y a autre chose qu'un arbitre tunisien pour diriger un quart de finale de la Coupe du Monde?
Thierry Roland, à qui l'on doit aussi ça.
Il suffit d'un ou deux excités.
troisième au top 50. Merci la nation française, toujours là quand on a besoin d'elle. Parfois, t'as des gens qui sont très distingués dans la vie et qui vont se mettre à insulter les Portugais de tous les noms parce qu'ils gagnent l'euro et donc pas nous. Tu as aussi des gens qui ne se sentent jamais français, mais qui, pendant les Jeux Olympiques, aiment fredonner, les yeux mouillés, la Marseillaise, la main sur le cœur, qui vont se mettre debout. Dans un stade, tu ne vois les fautes que de l'équipe adverse. Jamais celle de ton équipe, tu es d'une mauvaise foi mais sans faille. Et curieusement, c'est un peu comme si le sport, les grandes compètes sportives, servaient aussi à canaliser la population, à la tourner vers un but unique, gagner et merci la nation. Il y a un vocable guerrier dans le sport, écraser l'adversaire, l'éliminer, il domine, une efficacité offensive, il est impérial, mission accomplie, victoire, défaite, Ligue 1 Conforama, ah non pas ça. Il y a même le terme attentat. Et ce qui est très intéressant, enfin je trouve, c'est qu'il y a aussi un vocabulaire médical, avaler la pilule, sauver in extremis, et un vocabulaire religieux, le miracle, la messe est dite, une pelouse fétiche. Bref, c'est une forme de guerre. Alors si nous en tant que Français, la France, en sortons victorieux, alors nous avons gagné, nous sommes les plus forts. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les plus grands champions sont reçus à l'Élysée, que les politiques s'empressent de les féliciter et que la cote de popularité de Chirac était très très haute après la Coupe du Monde en 98.
Et malgré le coup du pouce.
Malgré le coup du pouce, 67% d'opinion favorable après le Mondial, une hausse aussi à ce moment-là pour Jospin, qui était son Premier ministre, mais un petit peu moins importante. Et c'est pas pour rien que Sarkozy s'affiche en permanence dans les stades, qu'il venait sur le Tour de France, qu'il courait aussi. Je sais pas si tu te rappelles de ces images.
Je me rappelle de ces images.
Macron, lui, il en fait des caisses.
Ne me lance pas sur ces images.
Il en fait des caisses sur sa condition de joueur de tennis exceptionnel. Ça va bien te réconcilier avec Roland Garros. Il paraît qu'il a pratiqué la boxe française.
Ne me lance pas sur Roland Garros.
Et qu'il est amoureux de l'Olympique de Marseille. Et ça, c'est assez récent. Mitterrand, par exemple, ne parlait pas du tout de sport.
Oui. C'est vrai que je comprends ce truc des fans de sport, des vrais, pas de la com, start-up ping-pong, là. C'est ce vrai engouement qui est un peu plus fort que toi, qui te dépasse. Ça me rappelle plutôt, moi, des sensations de manif, tu vois, de meeting politique où tu sens cette espèce d'excitation.
C'est proche.
Vraiment,
hein.
Ouais, il y a ce truc où on est tous ensemble dans une énergie incroyable où on pourrait faire plein de choses et en même temps c'est un peu flippant parce qu'il y a ce gros truc de foule, de masse qui peut partir en sucette quand même potentiellement. Et comme on parle de politique, bien sûr on ne peut pas ne pas évoquer à quel point le sport peut être une arme de communication politique.
Bah c'est le cas en ce moment avec les Jeux Olympiques d'hiver qui se déroulent en Corée du Sud et la Corée du Nord qui est à quelques kilomètres, la Corée du Nord vient à ces Jeux Olympiques, et on en a beaucoup parlé, puisque c'est la première fois qu'il va y avoir comme ça des représentants, même sportifs, de la Corée du Nord qui vont descendre en Corée du Sud.
Ça va pas être facile de les distinguer, ces Coréens.
C'est pas la première fois que ce genre de communication politique s'opère via le sport. La liste de l'utilisation du sport à des fins de diplomatie, de propagande, etc., est longue comme le bras. Bien sûr, un autre exemple hyper célèbre, c'est les Jeux Olympiques de 36. Alors Hitler n'était pas encore au pouvoir quand le CIO a attribué les Jeux à Berlin en 31, mais en 1936, quand ils ont eu lieu, ça y est, on était en pleine ambiance antisémitisme et xénophobie. Et pour le Troisième Reich, ces Jeux doivent servir à prouver la suprématie de la race aryenne, à prouver la puissance allemande et à renforcer l'adhésion populaire au régime nazi. Plusieurs pays avaient tenté de boycotter ces Jeux en organisant des contre-jeux à Barcelone.
Ça, ah ouais,
non, je me souvenais pas de ça non plus. Mais organisation de merde, plus début de la guerre d'Espagne, donc ils lâchent l'affaire. Quand je dis que je me souvenais pas du cours, j'étais pas née en 36.
Oui.
Les Jeux de 36 ont bien eu lieu, et Hitler bénéficie même d'un soutien de poids à ce moment-là, puisque Pierre de Coubertin, aka le réinventeur des Jeux Olympiques modernes, fondateur du CIO, personnage pour le moins ambigu, Coubertin, c'est certes un homme qui vend les Jeux Olympiques comme un instrument de paix, mais qui est vachement team patriotisme et nationalisme, et il se dit bien content que le sport prépare la jeunesse à faire la guerre. Lors des Jeux de Berlin, il déclare d'ailleurs que le peuple allemand et son chef soient remerciés pour ce qu'ils viennent d'accomplir.
Mais non.
Cette glorification du régime nazi a été le choc émotionnel qui a permis le développement qu'ils ont connu, en parlant des Jeux. Bah oui, merci, le régime nazi. On oublie trop souvent, dis donc, qu'ils ont permis de faire drôlement avancer la promotion du sport.
Je savais pas du tout ça sur Pierre de Coubertin. Bon, je connais pas grand-chose sur Pierre de Coubertin, mais on le cite encore beaucoup quand on parle du sport, de l'olympisme, des valeurs qui sont véhiculées par le sport, donc c'est assez rigolo de savoir qu'il a eu...
Oh bah rigolo, oui.
C'est le mot.
Oui, partons
c'est
sur une rigolade.
Tout, tout ouais. est assez rigolo.
Beaucoup plus proche de nous, en août 2016, ça je pense que tu t'en souviens, pour protester contre les violences policières envers la communauté noire, Colin Kaepernick, qui est un quarterback américain, reste assis au bord du terrain avant de faire un geste qui allait devenir emblématique, poser un genou à terre. Une sorte de boycott de l'hymne et du drapeau qui sont deux symboles sacrés de ouf aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il y a, Elodie ?
Excuse-moi, tu peux nous expliquer ce que c'est un quarterback ?
Bon, alors, le mec, il boycotte l'hymne et le drapeau. Oh, voilà. Et comme ça, il est devenu un symbole de la lutte contre les discriminations raciales. C'était une énorme polémique aux États-Unis. Alors, ça lui a valu des critiques, ça lui a valu aussi des éloges pour son courage. Ça n'a juste pas été hyper apprécié d'un certain Donald Trump. Mais qui s'en soucie. Aujourd'hui, Colin Kaepernick n'est plus quarterback. A priori, c'est trop prendre de risques de polémique que de le faire jouer, malheureusement. Mais il aura quand même attiré un peu de lumière sur un combat juste. C'est un sacrifice de carrière qui mérite d'être salué comme l'acte fondamentalement politique qu'il est. D'autant que nous, comme sportifs qui se la jouent politique, c'est pas exactement pareil, hein, parce que notre max, c'est David Douillet. Qui s'est fendu de cette très belle déclaration, parce que sachez que la phrase qu'il ne faut jamais lui dire, c'est « t'es une tapette ». C'est bien noté, David, vous n'êtes pas une tapette, vous êtes juste un gros con.
Mais un gros con douillet.
Ça, c'est sûr que c'est pas l'endroit le plus simple du monde pour faire son coming out, le sport.
A priori, hein.
Il y en a eu des sorties homophobes. Il y a effectivement David Douillet, mais il y a eu aussi Loulou Nicolin, c'est l'ancien président du club de Montpellier, qui faisait régulièrement ce genre de blagues. Je reste dans le foot. Le premier joueur à avoir fait son coming out, c'était en 97. Il s'appelait Justin Fashanu, je ne sais pas si je le prononce bien. Et lui, il a subi tellement de pression, tellement de moqueries, qu'il a fini par se suicider.
Il y a super quelques... drôle.
Ah bah, j'avais pas dit que...
Ah bah non.
Non, non. Il y a quelques sportifs qui sortent du placard, mais c'est encore rare. Amélie Mauresmo, hein, bien sûr, en France.
Ah mais qu'est-ce qu'elle s'est mangée comme vanne de merde en même temps.
Il y a aussi plusieurs joueuses de l'équipe de France de hand, championne du monde il y a quelques semaines. C'est simple, dans la population, on estime qu'il y a environ 10% de personnes homosexuelles. Et dans le sport, si... on compte que les gens qui ont fait leur coming out, on est entre 0 et 2% selon les sports. Donc il y a un problème.
Ouais.
Peut-être qu'ils n'aiment pas le sport en fait.
Il y a un léger hiatus.
Ce qui est drôle, même si je remarque que je dis souvent ce qui est drôle dans cette émission, c'est que souvent on associe à l'homosexualité masculine plusieurs clichés. Ils sont pleins à être coiffeurs, ils adorent la mode, ils s'embrassent entre hommes. Or, ce que je trouve... assez marrant, j'avoue, c'est que le sport masculin reprend plusieurs de ces clichés et les digère à sa manière, donc à une autre manière. Par exemple, quand il y a une victoire, il y a généralement des embrassades, des câlins, ils s'embrassent entre eux, ils se tapent sur les fesses même. La mode, les cheveux, le nombre de sportifs et surtout de footballeurs, puisqu'ils sont davantage starifiés, qui impulsent de nouvelles coupes de cheveux entre teintes et effets de la tondeuse, parfois un peu catastrophique. Ils sont la mode, ils font la mode.
Tenu éloigné du niveau des pros, je reviens agile comme Bébéto.
Cristiano Ronaldo, c'est quand même un mec qui pose en permanence, je veux dire, qui se fait photographier par des photographes très connus,
ouais.
Qui se fait photographier complètement épilé, en prenant très très soin de son corps, il est complètement huilé du corps, et c'est hyper drôle. On a l'impression que c'est un cliché pour l'homosexualité masculine,
ah oui.
Tu vois.
Alors que c'est, paradoxalement, c'est dans le milieu le plus homophobe qui soit.
Exactement.
Je paye aller, tête de cochon. Je hurle à mon sac Décathlon. Vent basket neuve, jamais servi. Et motivation de fourmi.
Mais une fourmi, ça bouge son cul, ça file au club Med Gym répu.
Moi j'irai pas, je reste ici. Après tout le gras, c'est la vie. J'ai le compte en banque en dessous de la mer. À cause du prélèvement bancaire. Que j'arrête pas au cas où, tu sais. J'aurais hyper envie d'y aller. Allez, on y va, oh les cœurs. Je mets un jogging, des écouteurs. J'y vais à pied ou à vélo. À reculons. Allez, banco, ça me crachote dans les oreilles. De la playlist de bons conseils. Priez pour moi, sainte Beyoncé.
Who run the world, abdos fessiers.
On pousse la porte, je fais de mon mieux. Pour faire genre, je connais hyper bien les lieux. Pleine d'assurance, je me fais tricard. Quand je vais me changer dans un placard, je vois des corps lisses et musclés, sentant la sueur de qualité. Quand ils transpirent, eux, ça sent la win. Et moi, bah, ça sent la frite et le spleen. Alors j'en ai marre à tout, ouais, laisse tomber. Merde.
Allez, Claire, tu reviens dans 15 jours.
Ouais.
C'était Miko The Night.
Ouais. Sur arteradio.com.
En partenariat avec Brain Magazine.
Salut, Elodie Font.
Salut, Claire Fégreuse.
Salut, Jean-Jacques.
Bonjour.
On se retrouve donc dans 15 jours. Et
bah,
là, on a oublié de parler de la troisième mi-temps.
On a aussi oublié de dire que les échecs, c'est un sport olympique.
Arte Radio.
Et le sport en couple, on en parle ?
.com.
Non.